mais il est le symptôme d'une Amérique qui est en guerre contre elle-même. Il y a des petits Trump un peu partout, y compris chez nous en Belgique. Il a réussi à parler aux tripes des gens, c'est son génie politique, je mets évidemment des guillemets à ça. C'est assez inquiétant, et le personnage est assez difficile à cerner, parce que quand on le traite par exemple de fasciste, je ne suis pas d'accord, parce qu'il est... Il utilise des méthodes du fascisme, c'est-à-dire la verticalité, faire taire les minorités, tout ce qui n'est pas d'accord avec lui, le culte de la personnalité. Donc il a des méthodes fascistes, mais ce n'est pas un fasciste, parce qu'il n'a aucune idéologie autre que lui-même. Il a voulu devenir président pour plusieurs raisons. D'abord pour éviter de retourner en prison, ensuite pour s'enrichir, et autre chose qui est très important chez lui, c'est qu'il veut absolument laisser une place dans l'histoire. C'est quelqu'un qui ne s'aime pas. C'est quelqu'un qui est dans la revanche perpétuelle, comme son ex-grand ami Elon Musk. Et c'est ça qui est intéressant dans le personnage, c'est qu'on a l'impression d'avoir un enfant de 5 ans qui n'a toujours pas grandi.
Nicolas Lavado, très souvent en tant que journaliste, nous on hésite à rebondir sur toutes les déclarations de Donald Trump tellement elles sont folles. C'est difficile aussi parfois de le faire tous les jours. Est-ce qu'en tant que dessinateur, on se pose aussi cette question?
Oui, on se la pose constamment, et je me la pose également avec l'Écho ou avec le Vif, encore plus avec l'Écho qui est en quotidienne. Parce que notamment après le 20 janvier, surtout les 100 premiers jours, après ça s'est un peu calmé puis c'est reparti, on se disait mais est-ce que les gens vont pas en avoir marre, on fait du Trump tous les jours. Et pourtant, si vous prenez dans le bouquin, parce que j'ai daté tous les dessins, vous avez notamment en février, je pense qu'il y a un dessin tous les jours sur lui, parce qu'en fait ce qui s'est passé depuis le 20 janvier, les 100 premiers jours jusqu'au Liberation Day à peu près en avril, on s'aperçoit un changement radical du monde. Vous parliez du début de ma carrière, moi j'ai commencé à faire du dessin politique en 1989. En septembre 89, j'étais en première année d'études à l'ERG, et le premier exercice qu'on nous avait donné, c'était illustrer l'actualité. Moi, je voulais pas l'illustrer, je voulais la comprendre, mais c'était à un moment charnière, c'était la chute du mur de Berlin. Et en fait, entre la chute du mur de Berlin et la mort des époux de Ceausescu fin décembre 89, vous avez 3 mois où le monde s'est complètement chamboulé d'un coup, devant nos yeux, et le monde que l'on connaissait avant, c'est-à-dire coupé en deux entre le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est, c'est tout à coup écroulé, les murs se sont tombés.
C'est ce qu'on revit aujourd'hui.
C'est ce qu'on vit, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que les murs s'érigent. Et pourtant, ça fait 35 ans que je fais ce métier, donc des grandes crises, je les ai couvertes toutes en dessin, plus ou moins, que ce soit le 11 septembre, que ce soit la crise financière de 2000, que ce soit le Covid, que ce soit la guerre en Ukraine. Mais ce qui se passe en ce moment, c'est un changement diamétral du monde, c'est-à-dire que l'Europe perd complètement sa place, elle doit se retrouver un avenir face à un allié qui n'en est plus un véritablement, et avec un ennemi à nos portes. Donc c'est quelque chose qui est très important, et Donald Trump, de ce point de vue-là, par rapport à son premier mandat, puisque vous disiez que j'avais fait saison 1, la saison 2, je me souviens très bien de ce que m'avait dit Jérémy Gallon, que vous connaissez bien, qui vient souvent. Il m'avait dit, tu verras, il va être élu, et ce coup-ci, il sera prêt dès le premier jour. Et c'est ce que m'avait dit Bruno Coleman aussi, qui va souvent là-bas. Et là, contrairement à la première fois où il ne s'attendait pas du tout à être élu, là, il s'attendait à être élu. Il avait dit, je serai dictateur un jour, voire plus.
Et c'est quoi la différence entre ces deux Trump? Parce que vous l'avez souvent dépeint en enfant capricieux, Donald Trump. Aujourd'hui, cet enfant, il est seul prendre ses décisions, c'est ça la grosse différence?
La différence, c'est que l'enfant capricieux avant avait des adultes avec lui,
ouais.
Et maintenant, il n'y en a plus, parce qu'il les a tous virés les uns après les autres. Et la personnalité de Donald Trump en elle-même est très intéressante. Le Trumpisme perdurera après lui. Alors, il y a des gens qui pensent qu'il va mettre son fils à la place la prochaine fois. Ou alors, ce soit J.D. Vance. J.D. Vance, qui est, contrairement à Trump, qui est un intellectuel, qui, lui, a une vraie colonne vertébrale idéologique, que je trouve très inquiétante, ce qui n'est pas le cas de Trump.
Il est plus dangereux. C'est ça.
Je ne sais pas s'il est plus dangereux, parce qu'il y a quelque chose dans Donald Trump qui parle aux tripes des gens. Ce qui ne sera pas forcément le cas de son fils. D'abord, ses deux fils aînés, il a toujours dit qu'il avait dit un jour que les fées ne s'étaient pas penchées sur leur berceau, première chose. Baron Trump, ça c'est autre chose, mais il est un peu jeune. Concernant J.D. Vance, qui a été biberonné par Peter Thiel et par les géants de la tech, ça c'est autre chose. Donc on a une sorte de techno-féodalisme qui se met en place, c'est-à-dire un alliage entre un type comme Donald Trump et les géants de la tech, ce qui fait quelque chose, un cocktail extrêmement explosif, et je ne suis pas certain que le Trumpiste tel qu'il est survivra à Donald Trump à cause précisément de ce culte de la personnalité.
Ouais, on voit depuis tout à l'heure, Nicolas Vado, tous vos dessins qui sont passés, on vous montre évidemment tous les dessins de Nicolas Vado avec les dates qui sont chaque fois aussi indiquées. Il y a un dessin qu'on voulait vous montrer aussi ce soir, c'est donc Donald Trump en mode Matrix qui évite les balles. Il va apparaître dans quelques instants ce dessin, et puis les balles, on peut lire aussi ces mots, hein, condamnation, prison, assassinat, banqueroute, le voilà donc ce dessin. dessins absolument dingues. On a quand même l'impression, et vous arrivez à bien le mettre en image, Nicolas Maduro, que rien ne peut atteindre aujourd'hui le président américain, qui pourrait éviter toutes ces balles lancées par la gauche, par la droite, par le monde entier finalement.
Alors c'est un peu le téflon, c'est-à-dire que rien ne s'attache avec lui. Hein, mais ce dessin, il date, il a été publié le 21 juillet 2024, parce que j'ai découpé le livre en trois chapitres. Un monde sans dessus, sens dessus-dessous, pour comprendre le monde tout autour de nous qui a contribué à ce que Donald Trump soit réélu. Le troisième chapitre, c'est le retour du roi, mais au milieu, j'ai fait l'élection présidentielle américaine 2024, parce que c'est une élection qui va rester dans l'histoire pendant des années et des années. On n'a jamais vu ça. Souvenez-vous quand même de la séquence. Le 27 juin 2024, on a ce débat avec Joe Biden et Donald Trump, et Joe Biden explose en plein vol, véritablement, il finit pas ses phrases, et même Donald Trump savait pas trop quoi dire, parce qu'il est...
Ouais, il finit par dire, je sais pas si vous avez compris quoi que ce soit, mais moi
non plus. Et juste après ça, tout le monde demande à Biden de se retirer, il ne se retire pas. Pourquoi il se retire? Pour deux raisons. La première, c'est parce que on a des gens comme George Clooney qui a demandé son avis à Barack Obama avant, qui menace de retirer la prise. Et puis Joe Biden, ce qui va faire que Joe Biden démissionne, c'est qu'il va avoir un Xème Covid, lui qui était déjà vacciné 250 fois, il brillait dans la lumière déjà, mais il a à nouveau un Covid, et là, il va abandonner. Et il va abandonner juste après l'attentat manqué contre Donald Trump. Alors il y a beaucoup de gens qui pensent que cet attentat manqué est un complot. Moi je pense pas du tout. Je pense que il a eu énormément de chance. Et puis ce jour-là, le 13 juillet, on lui tire dessus. Il y a cette photo absolument extraordinaire avec les gardes du corps qui se ruent sur lui.
Le poing levé.
Le poing levé avec un peu de sang et le drapeau américain au-dessus, mais qui est à l'envers, comme si c'était la marque du diable. C'est une photo iconique. Et à ce moment-là, Trump a gagné l'élection parce qu'il devient à la fois un héros, une victime et un martyr. Et c'est là, je viens de lire un bouquin passionnant qui s'appelle La pensée nazie, c'est-à-dire comment, c'est un historien anglais qui, Roald Lawrence, il s'appelle, et qui explique comment un peuple civilisé en quelques années a basculé vers l'extermination nazie.
Ben, on est d'accord, juste Nicolas Maduro, qu'on n'a pas pu faire deux tomes comme ça sur un personnage comme Joe Biden, par exemple. Non, il fallait vraiment avoir quelqu'un à la fois qui... Parce que physiquement aussi, on s'amuse à dessiner un Donald Trump. Est-ce qu'on tombe pas très vite aussi dans la caricature
dans au sens premier du terme? La caricature de la caricature, mais j'essaie de faire évoluer le personnage aussi, parce qu'il vieillit comme tout le monde, j'essaie de le faire évoluer. Mais pour revenir à la pensée nazie, ce qui était intéressant, c'est que les dictateurs comme Adolf Hitler ont un discours qui est eux contre nous, d'une part, et d'autre part, ils dressent un portrait cataclysmique de la situation, mais disent « grâce à moi, tout va aller mieux ». Et ils donnent un espoir. Et en fait, c'est ce que donne Donald Trump, même si c'est complètement fallacieux et factice, il donne un espoir. Joe Biden ne donnait pas d'espoir. Joe Biden, c'était un vieux croulant, et le Parti démocrate avait été verrouillé par lui, mais avant par Obama. Kamala Harris n'y a jamais cru, donc c'était perdu d'avance. C'est ça qui est intéressant. Et donc cette séquence de l'élection présidentielle 2024, elle est quand même, elle restera dans les annales de l'histoire.
Autre dessin, Nicolas Maduro, qu'on va voir à l'écran, c'est la paix selon Donald Trump. On y voit Trump et Poutine en winner se serrer la main sur un Ukrainien qualifié de loser. J'aimerais quand même qu'on s'arrête, voilà, on le voit à l'image ce dessin, j'aimerais quand même qu'on s'arrête sur ce mot paix. Donald Trump qui affirme à nouveau, vous en avez parlé, qu'il devrait recevoir le prix Nobel de la paix après son plan de la paix pour Gaza. Donald Trump, prix Nobel de la paix, est-ce que vous pensez réellement le dessiner un jour?
Ça peut arriver. Écoutez, si on veut lui filer son prix Nobel de la paix et que ça fait que la guerre à Gaza se termine, bah ok, qu'il ait son prix Nobel de la paix, je m'en fous. Mais ce qui est intéressant, c'est que Trump ne voit le monde de manière binaire. Il y a des gagnants et il y a des perdants. Sauf qu'en face de lui, il a un mur qui est Vladimir Poutine, qu'il a complètement couillonné à Anchorage au mois d'août, parce que j'ai terminé le bouquin le 21 août, juste après cette séquence-là. Il s'est fait couillonner l'autre jour par Netanyahou de la même manière, parce que j'ai fait un dessin dans l'écho hier où il montre Netanyahou dit Donald Trump m'a tordu le bras, et l'image d'après il dit mais je me suis vite remis, il lui fait un bras d'honneur, parce que c'est un peu ça ce qui se passe. Et donc en fait Trump s'en fout complètement de ce qui se passe au Moyen-Orient, à Gaza ou en Ukraine, il veut juste parler à sa base MAGA, c'est aussi simple que ça. Et donc c'est pas un faiseur de paix, mais je vous dis, si on lui donne, si le fait de lui donner le prix Nobel de la paix fait que l'horreur s'arrête à Gaza, l'armée israélienne arrête de pilonner et d'affamer la population de Gaza, et que le Hamas dépose les armes, oui, ok. Hein.
Oui.